commencer par remercier très chaleureusement le comité d'organisation de l'INSL de son invitation et de son très généreux accueil et du formidable congrès qu'il a mis sur pied. Puisque l'INSL a été créé pour favoriser les échanges internationaux et le partage des perspectives et que l'on m'a invité à m'exprimer en français, je me suis dit que je vous parlerai de poètes anglophones, trois poètes nord-américains, dans le prolongement de mon activité de passeuse de la poésie états-unienne en France. Alors j'ai dû malheureusement abandonner Franck Lebovici, mais ce n'est que partie remise. Donc puisque ce cinquième congrès se positionne au carrefour des théories et des pratiques, j'ai eu envie de me tourner vers les poètes critiques. À la fois par goût, parce que j'ai toujours été attirée par les discours qui se situent à l'intersection du poème et de l'essai, pour le dire vite, les poèmes qui pensent et les essais conscients de leurs moyens et de leurs formes, aussi bien poème critique, pour reprendre le terme de Mallarmé, que essai lyrique, pour reprendre une catégorisation nord-américaine plus récente qui caractérise particulièrement bien les livres de Susan Howe, mais on peut aussi penser à ceux de Claudia Rankine. Il se trouve aussi qu'avec mes camarades Vincent Broca et Olivier Brossard, nous portons un réseau de recherche intitulé Poets and Critics, qui cherche à promouvoir des échanges entre les discussions académiques et poétiques, en mettant l'accent sur les perspectives des poètes et en explorant des formes alternatives de critique. Donc par goût, mais aussi pour interroger l'intersection poésie-université et aborder des questions de transmission. Qu'ils soient eux-mêmes universitaires, comme Charles Bernstein et Fred Moten, ou non affiliés, comme Lisa Robertson, un grand nombre de poètes sont aujourd'hui, particulièrement en Amérique du Nord, disons, dans l'orbite de l'université, parce que s'y trouvent un grand nombre de leurs lecteurs et que s'y produit l'essentiel des discours critiques. En arrière-plan, et puisque l'intitulé du congrès nous invite à considérer l'actualité, il y a évidemment une inquiétude sourde, le danger qui pèse sur les humanités à l'université. Quand je suis venue à la poésie dans les années 90, c'est la mort de la poésie qui était annoncée. Aujourd'hui, il semble qu'elle se porte bien, mais ce sont les humanités qui apparaissent menacées. Baisse des financements, fermeture des programmes, déclin du statut de la littérature dans l'écologie des médias, précarisation du marché du travail universitaire, menace d'obsolescence par l'IA et dans certaines circonstances, endettement des étudiants. Quand j'ai reçu l'invitation, j'étais en train de lire l'ouvrage de John Guillory, qui est professeur à Columbia, qui s'intitule « Professing Criticism, Essays on the Organization of Literary Studies », qui fait une espèce de survol des études littéraires depuis l'Antiquité quasiment, et dont l'argument principal est « les études littéraires se sont professionnalisées avant de se disciplinariser ». Alors, Bernstein, Robertson, Moten n'ont pas de solution à offrir, mais des critiques, un optimisme de la volonté, une expérience des réseaux alternatifs de transmission. Bref, je vais vous parler de questions de style et de transmission. Je commence avec Charles Bernstein, figure majeure de la poésie états-unienne contemporaine, en raison de son œuvre poétique et critique, une trentaine de livres, mais aussi d'un travail éditorial et d'un engagement pédagogique hors du commun, qui ont contribué à façonner le champ poétique aux États-Unis et au-delà. Il dit souvent « Organizing is a poetic practice ». Alors, né à New York en 1950, il fonde en 78 la revue Language, qui a donné son nom au mouvement du même nom. Pour rappel, le mouvement Language, apparu dans les années 70, rassemble des poètes qui s'emploient à montrer le caractère socialement construit du sens. Engagé et critique, la poésie Language privilégie des formes fragmentées, la collaboration et des circuits de diffusion alternatifs. La revue Language publie des textes remettant en cause la frontière entre poésie et poétique et permet de diffuser plus largement des échanges qui avaient débuté par des correspondances privées. Dans toutes ces initiatives qui suivront, Bernstein va s'employer à élargir les cercles de réflexion et les circuits de diffusion. En 90, il crée avec Robert Creeley et Susan Howe le Poetics Program à l'université SUNY Buffalo, qui formera un grand nombre de poètes, et notamment de poètes critiques. Je pense à Julian Aspar, Jenna Osman, Liz Willis. Au moment où les départements de creative writing minimisent l'enseignement de la tradition littéraire et la réflexion critique au profit de la production d'une écriture personnelle, et au moment où beaucoup de départements de littérature abandonnent l'étude des textes littéraires pour la théorie et les études culturelles, le Poetics Program met l'accent sur la poétique, encourageant une lecture critique de la littérature et de la pensée philosophique et contemporaine. Sous l'impulsion de Bernstein, le Poetics Program devient pionnier dans l'usage du numérique au service de la poésie. Avec Los Pequeños Glaciers, Bernstein crée le premier site internet de poésie, le Electronic Poetry Center, dont l'ambition était de mettre à disposition de tous le plus grand nombre d'informations, de liens, de ressources disponibles, bibliographies, ouvrages numérisés, ressources audio, archives, etc. EPC devient très vite un outil indispensable aux lecteurs de poésie, autant qu'aux chercheurs, en Amérique du Nord et bien au-delà, puisque c'est sur la toile. Bernstein poursuit ce travail simultané d'archivage et de diffusion lorsqu'il quitte SUNY Buffalo pour l'Université de Pennsylvanie en 2004, où avec Alfie Reis, il crée PenSound, le plus grand site d'archives sonores de poésie en ligne. En 2021, il comptait 40 000 fichiers audio, 1000 fichiers vidéo et un total de plus de 6 millions de téléchargements par an. Bernstein impose un modèle de gratuité. Tous les fichiers sont non seulement accessibles en ligne, mais téléchargeables pour promouvoir les usages scientifiques et pédagogiques, créatifs et récréatifs. Il me semble qu'il est difficile de surestimer l'importance de ces initiatives, notamment PenSound, qui ont promu les poétiques dites expérimentales en les rendant accessibles, transmissibles, et qui ont aussi offert d'autres manières de consommer, de rencontrer, d'enseigner la poésie. Je sais que mon enseignement en particulier en a été profondément modifié. Donc ça, c'était pour la transmission. Pour une extension tonale de la critique, pourquoi, comment ? Bernstein interroge les impensés des formes discursives académiques et les normes de communication. Convaincu qu'aucun argument philosophique ou critique ne s'énonce dans une forme neutre, il dénonce l'aveuglement de la critique à la signification de ces formes, qui est un déni de la raison au nom de la rationalité. Je le cite. « Un spectre hante les filières littéraires de l'université. L'écart croissant entre nos théories les plus avancées et les proscriptions que la norme institutionnelle impose à nos pratiques d'enseignement et d'écriture. Quand mettrons-nous nos théories valorisant l'ambiguïté, l'impermanence et le nomadisme en pratique sur nos lieux de travail et dans les appareils administratifs et professionnels, au lieu de nous contenter de les appliquer aux dynamiques de pouvoir des siècles passés ?» Fin de citation. Bernstein déplore en particulier le verrouillage du cadre interprétatif, qu'il appelle « framelock », et le grippage du ton, « tone jam », dont souffrent tant d'articles universitaires, selon lui. L'ordre des phrases est hypotactique, subordination et coordination maximale, tous les éléments sont subordonnés à une thèse principale qui est exposée de façon linéaire et narrative. La thèse doit pouvoir être séparée de son expression de sorte que le message puisse être extrait du texte. Les arguments doivent pouvoir se gloser aisément et des récapitulatifs sont régulièrement réitérés pour assurer la clôture interprétative. L'université n'est pas seulement non poétique, conclut Bernstein, elle est antipoétique. Et la récente prolifération des cadres interprétatifs, féminisme, psychanalyse, théorie de la réception, n'y fait rien. Donc ça, c'est le diagnostic. Le remède est exposé et mis en œuvre dans ses communications et ses essais qui multiplient les manquements aux règles de bienséance académique. Les couvertures bigarrées annoncent la couleur, humour, irrévérence, disparate. Un feuilletage rapide des ouvrages le confirme. On trouve des poèmes dans les ouvrages critiques, ici insérés en guise d'interlude comique. Les sous-titres indiquant les genres le confirment, « Speeches and Poems » ou « Essays and Inventions » ou « Essays and Comedies ». Alors, on peut définir la position de poétique critique de Bernstein selon quatre principes. Premier principe, principe de discordance, qui régit aussi ses livres de poésie. Discordance des tons, avec une préférence pour les extrêmes. Ce sont les changements forts et abrupts d'émotions qui m'intéressent. Ainsi, quelque chose de sombre se transforme en quelque chose qui ressemble à un numéro comique, qui se transforme en quelque chose qui peut être élégiaque. Ensuite, torsion argumentative, renvoyant dos à dos la continuité linéaire et la discontinuité du collage avant-gardiste, Bernstein prose l'essai modulaire, qui autorise des ruptures importantes entre les sections et conçoit chaque paragraphe comme une série de remarques développées ou d'improvisations à partir d'un noyau aphoristique. Deuxième principe, retour au paradigme esthético-critique. Donc mise en avant de l'esthétique au sens d'expérience sensible et de la critique au sens de capacité à juger. Ce qui m'est apparu clairement en lisant « Professing Criticism » de John Guillory, c'est que Bernstein renoue avec le paradigme de la critique tel qu'il s'établit au XVIIIe siècle et qui sera abandonné au moment où l'activité critique se professionnalise au sein des universités et se consacre davantage à l'interprétation. Je cite Guillory, la psychologisation du jugement a été une condition du passage de la poétique à la critique littéraire, un discours dans lequel le désaccord sur la qualité d'une œuvre littéraire était constitutif et en fait génératif. Le jugement n'était pas un acte de langage unique, mais le début d'un débat sans conclusion. Or, écrit encore Guillory, le jugement se fonde dans l'expérience du plaisir. » C'est précisément ce que dit Bernstein quand il invite les étudiants de première année à faire l'expérience de la poésie par la manipulation plutôt que par l'analyse critique. Bernstein dit « You can't judge what you don't experience ». Je le cite. Si je plaide en faveur de l'esthétique, j'espère qu'il sera évident que je n'utilise pas le terme pour suggérer un idéal de beauté, mais plutôt pour évoquer un champ contesté de jugement, de perception et de valeur, où les œuvres d'art et les essais fonctionnent non pas comme des adjudicateurs de principes fixes, mais comme des sondes de sens, des aiguillons de pensée. Bernstein valorise le dissensus, le débat, la conversation. Il favorise le dialogue. Je ne sais vraiment ce que je pense que lorsque je suis en conversation, dit-il. La conversation est un art, ma pensée s'anime avec le dialogue, je n'ai pas de doctrine, j'ai des modes d'engagement, des répliques contextuelles, des déformations par réaction. Troisième principe, le renouvellement des termes. Là, on n'est plus avec Kant, mais plutôt avec Shklovsky et Aristote. Contre l'usure des termes critiques et pour retenir l'attention du lecteur, Bernstein s'emploie à renouveler les termes critiques. Vous avez une liste là de certains de ces néologismes et le début d'un essai particulièrement inventif. Voilà. Quatrième principe, l'optimisme, l'anticonformisme, la self-reliance émersonienne, la volonté de prendre du risque. L'optimisme, dit Bernstein, est ma réponse émersonienne, une volonté d'essayer, de défendre, de proposer, de revendiquer, l'enthousiasme contre la prudence et la passivité de ne jamais avancer, ce qui n'est pas déjà connu. Le jugement contre l'analyse instrumentale, la raison contre le rationalisme. Enfin, Bernstein souligne la responsabilité du poète critique. Je crois que les artistes et les intellectuels doivent s'efforcer de rendre leur travail et le travail qu'ils soutiennent disponible dans les espaces publics. Il dit, dans un poème récent, « Tout le monde parle du déclin des sciences humaines, mais peu font l'effort de se relever. En d'autres termes, le passé a-t-il un avenir ?» Alors. Autre chapitre, pour une extension vocale de la poésie. Le plaidoyer pour un élargissement tonal de la critique se double d'un travail d'élargissement du spectre vocal de la poésie. Alors, j'ai pas le temps de développer entièrement ni de conduire une analyse d'un enregistrement sonore, mais je vais vous livrer les conclusions auxquelles je suis arrivée, à partir de deux interrogations de départ. Comment comprendre qu'un poet language, mouvement connu pour avoir récusé l'oralité et la poétique du souffle de leurs aînés, on pense à Olson ou à Ginsberg et son Howl. Comment comprendre qu'il est tant fait pour la prise en compte critique et pédagogique de la lecture publique et la conservation de leurs enregistrements, avec Pen Sound et le volume collectif Close Listening. Deuxième interrogation, en quoi la manière si singulière, si concertée de Charles Bernstein de lire à haute voix incarne-t-elle ses principes poétiques, qui sont de minimiser la fonction auteur, de casser l'illusion de la présence. Il s'en explique notamment dans cette citation. La question qui m'a toujours intéressée était de savoir comment rendre la langue plus consciente d'elle-même, rendre audible une connaissance généralement inconsciente. Pour moi, cette mise en évidence constitue la musique du poème. La voix, telle qu'on l'entend généralement, m'a toujours semblé le moyen d'éviter cette prise de conscience puisqu'elle organise le poème selon des paramètres psychologiques. Essayer d'unifier le style du travail autour de la notion d'un moi, c'est non seulement réduire l'écriture à une dimension autobiographique dans sa tentative de définir le son d'un moi, c'est aussi postuler que la création d'une personnalité est centrale de la composition poétique. Je n'ai pas de voix, bien que je puisse créer une voix stylistique cohérente dans l'écriture. Bernstein ne récuse pas la notion de voix, mais la considère comme une variable parmi d'autres. Lire à haute voix est une manière d'introduire une nouvelle variable, et en particulier une variable qui vient parasiter ou redoubler la notion de voix. Une manière, écrit ailleurs Bernstein, de pratiquer une résistance auctoriale à l'autorité du texte, où le poète en performance est pensé comme un trublion du poème. Et c'est ainsi que lit régulièrement, mais pas toujours, Bernstein sur le principe de discordance maximale, en alternant des poèmes pathétiques et bouffons jusqu'aux effets de slapstick. Mais comment lire sans que ce sentiment de présence vocale ne soit mis en avant ? Il est certain, dit Bernstein, qu'il faut rompre tant avec l'incantation chamanique de la poésie sonore qu'avec la mise en avant de la personnalité projetant une force de cohésion imaginaire. Et il se tourne vers la chanson, qui est un genre qui se prête par excellence à la réénonciation, et en particulier la ballade, toujours claudiquante, qui a pris une place croissante et a priori étonnante chez un ancien avant-gardiste. Autre solution, qui met en pratique une résistance auctoriale à l'autorité du texte, c'est de prêter attention aux caractéristiques graphiques du texte pour elles-mêmes, fin de vers, ponctuation, organisation visuelle, et pas seulement comme indication dans une partition pour la voix. et en tentant de créer des rythmes à partir des éléments compositionnels du texte qui ne seraient pas ceux de la rhétorique ou du discours. On peut penser au poème « Dear Friend », dans lequel Bernstein lit les spams qu'on recevait au début des années 2000, plein de signes diacritiques et de symboles imprononçables, et qu'il se fait un plaisir de prononcer avec des effets burlesques à la Spike Jonze. Il y a évidemment une autre manière de faire vaciller l'unicité de la voix, qui ne passe pas par l'oralisation, mais par la traduction. Les trois derniers livres de poésie de Bernstein, composés après la disparition de sa fille, font une place croissante à la traduction pour dire sa peine. Les poètes sont des imposteurs dont l'imposture est si réelle qu'ils simulent même la peine qu'ils éprouvent réellement, annonce-t-il dans le poème qui ouvre le volume Recalculating, une traduction de Autopsychographia de Pessoa. Deuxième poète critique, Lisa Robertson ou How to Become. Je me tourne vers Robertson, poète et essayiste canadienne qui trace depuis les années 90 une voie poétique profondément singulière et inventive. Née à Toronto, Robertson commence à publier au début des années 90 à Vancouver, où elle tient une librairie, écrit des essais pour des galeries d'art. Elle participe à la fois du milieu de l'art conceptuel, en avance sur les poètes en matière de féminisme, dit-elle au moment où elle découvre les travaux de Butler et Haraway, et elle participe aux travaux de la Kootenay School of Writing, un collectif d'écrivains expérimentaux engagés qui organisent des ateliers et des cours d'écriture. Lisa Robertson et les autrices avec qui elle collabore vont radicalement transformer cette école en occupant ces espaces, en créant des groupes de lecture et en s'entraidant. C'est à l'intersection de ces deux communautés qu'elle se donne une éducation. Car contrairement à Bernstein et à Moton, qui sont tous deux des alumni de Harvard et ont chacun achevé leur carrière dans une université prestigieuse, Bernstein à University of Pennsylvania et Fred Moton à NYU, Robertson se situe à la marge de l'université. Si elle est régulièrement invitée pour des résidences et des interventions par des institutions prestigieuses, Cambridge, Princeton, Berkeley, etc., elle demeure non affiliée. Pour autant, à moins que ce soit précisément pour cela, elle accorde une attention croissante à la transmission. Son roman « The Baudelaire Fractal » paru en 2020 et qui a été traduit en français par Jeanne Auclair en 2023 et paru aux éditions du Cartanier, The Baudelaire Fractal pourrait avoir pour sous-titre « Comment devenir écrivaine ». On pourrait partir de ce passage dans Boat qui montre la lectrice s'abandonnant avec volupté à la lecture d'un classique et soudain violemment rappelée à son assignation de genre. « Annulée », dit-elle. La lecture qui lui rappelle qu'elle n'a aucune place dans cette tradition. Comment dès lors concilier son engagement féministe radical et son amour du beau ? Au début du Border Fracture, elle dit « C'était au mois de juin 1979, je cherchais la beauté. » Robertson énonce sa solution dans le manifeste « How Pastoral a Manifesto » qui accompagne son premier livre, « Xeclogue », une pastorale d'inspiration héroïcomique, née au XVIIIe, qui met en scène les garçons rugissants, Nancy la bergère et Lady M., et qui mixe paroles de pop-song, artifices littéraires de haute volée et introspection philosophique factice. La solution, dit-elle, lui est soufflée en rêve par une ancêtre, sans qu'on sache si cette ancêtre est une des deux grand-mères à qui le livre est dédié, ou la femme de lettres et intellectuelle Lady Mary Wortley Montagu, qui dans le livre sert de guide à Nancy, comme Virgile avait servi de guide à Dante. Quoi qu'il en soit, c'est une transmission matrilinéaire. Et donc Lady M lui souffle « Et si, pour ton nouveau costume, tu choisissais d'exhiber l'obsolescence ?» Autrement dit, se détourner du projet d'innovation de l'avant-garde et du capitalisme pour recycler, reprendre la tradition, faire des reprises, comme les Sex Pistols avaient repris My Way ou God to Save the Queen. Elle dit, dans The Baudelaire Fractal, « Mon travail sera désormais d'augmenter, sans rien soustraire de la composition, y ajouter la vie d'une jeune fille et observer la dissolution du centre. » C'est d'abord dans le genre de la pastorale qu'elle trouve de quoi combler ses appétits esthétiques et son projet critique. Après les églogues, l'énéide. Après Nancy, Debbie. Debbie and Epic revisite l'épopée, genre viril s'il en est, en la queerisant. Sabrina Soyer, une des traductrices du livre, rapporte que Robertson avait écrit ces différentes parties comme des sortes de toasts clamés au cours d'un dîner interminable adressé à ses camarades et collaboratrices de Vancouver, Catriona Strang, Kathy Slade, Dan Farrell, Christina Stewart, Susan Clarke et Erin Mouret. En 2001, Paré the Weather, son poème géorgique, cette fois-ci, entièrement composé à partir d'ouvrages d'histoire naturelle consultés dans les bibliothèques de Cambridge. En 2006, The Man, a lyric book, chante dans le Dolce Stil Novo et les rimes esparsées de Pétrarque et de Dante. Boat est une amplification de Hart's Boat, qui amplifie lui-même le chapbook Rousseau's Boat. Poème méditatif, comme depuis la barque de Rousseau dans les rêveries du promeneur solitaire. Robertson ajoute de nouveaux poèmes au volume, composés à partir de ses carnets de notes, dans lesquels elle se replonge tous les 10 ans. C'est un poème méditation sur le temps médium du devenir. Robertson y voit une autobiographie impersonnelle, sans doute parce que les carnets de notes sont extériorisés. The Boulder Fractal, paru en 2020, est à la fois son premier roman et son ouvrage le plus autobiographique, puisque, je cite, « ces choses sont arrivées, mais pas telles que décrites ». Un matin, dans une chambre d'hôtel de Vancouver, Hazel Brown découvre au réveil qu'elle a écrit l'œuvre entière de Baudelaire. Sous le choc de cette révélation, elle replonge dans le passé et raconte son arrivée à Paris en 84, avec le désir de devenir poète, mais pas la moindre idée comment le réaliser. Le mot « girl » revient de manière obsessionnelle, lancée avec dépit, rage et défi, comme pour l'exorciser. Je la cite, « si je répète « fille »,« girl » si souvent, c'est pour celle qui, comme moi, apprécie la brièveté du mot, sa force percussive. Je me demande si à force de répéter ce mot, je ne vais pas épuiser la désignation qui m'a épinglée, la noyer dans l'excès lugubre qu'elle désigne et convertir sa courte syllabe en un terrain du possible. Je voudrais forcer la catégorie à produire monstrueusement une subjectivité hors de la suggestion. » Alors, comment échapper à sa condition de fille? Comment écrire? Comment se donner une éducation? Au milieu du roman, Lisa Robertson Hazel Brown rapporte une percée décisive grâce à l'Émile. Comment inventer une façon de m'éduquer par moi-même? Je connais une jeune personne qui a appris à écrire plutôt qu'à lire, écrit Rousseau à propos de l'éducation des jeunes filles, et qui commença d'écrire avec l'aiguille avant que d'écrire avec la plume. De toute l'écriture, elle ne voulut d'abord faire que des hauts. Elle faisait incessamment des hauts grands et petits, des hauts de toutes les tailles, des hauts les uns dans les autres, et toujours tracés à rebours. Lectrice, il vous faut faire de votre anonymat dépravé un décor, un haut après l'autre, et grâce à ce dispositif baroque, grâce à cette carapace exsudée, un fil après l'autre, vous ferez avancer le drame de votre invention morale. Je découvrirai l'ornement de l'excès. C'est là que je ferai mon éducation. C'est donc dans l'Émile ou de l'éducation de Rousseau que la jeune Hazel Brown trouve, au moins rétrospectivement, la réponse à sa question. La réponse à comment commencer, c'est commencer, se mettre à écrire sans avoir tout lu, quitte à ne faire d'abord que des hauts, image de la nullité du féminin annulé que nous avons vu plus haut, que Robertson découvre encore et toujours au gré de ses lectures des classiques. Le terme carapace révèle combien le style baroque de Robertson à ses débuts, s'il relève d'un goût est une manière de prendre le contre-pied de styles expérimentaux de l'époque, est aussi une manière pour l'autodidacte, en proie à la honte, voire à l'abjection féminine, de se caparaçonner, comme la guerrière débit, de se donner un exosquelette, une surface. Alors, quelques exemples de son usage du style. Une syntaxe souvent hiératique et quasiment juridique. I, a girl, exultant, crossed into the room. L'usage du modal shall, qui est toujours perçu comme, aujourd'hui comme archaïque en anglais. Des termes rares, souvent venus du français, ce qui rend la langue précieuse, the girl, her inescapable maladroitness, des effets rhétoriques de clôture, I would discover the ornament of excess, there I would be schooled, et surtout de longues périodes déroulant plis et drapés. Ce style baroque, elle le justifie par son caractère improductif. À la fin de son premier manifeste, elle conclut, we shall refuse to be useful, nous refuserons d'être utiles. Si le résultat en semble superficiel, ornemental, dit-elle, c'est qu'à présent, réalisme est un autre nom du capital. C'est par les phrases, celles qu'elle lit, puis celles qu'elle écrit, qu'elle desserre l'étau de l'identité et du temps, et qu'elle entrevoit le passage de la girl à la grâce. En se perdant dans la syntaxe et en créant des effets de suspens. Une longue séance de lecture maintient parfois cette porte, la porte du jeu, le pronom personnel « je » entremaillé. C'est pourquoi je lis « En quête de la libération structurée du personnel ». Mais le devenir est aussi affaire collective. Dans The Collective, un essai paru en 2017, Robertson offre une méditation rétrospective sur l'histoire, l'expérience et l'héritage du Kootenai Writing School, ce collectif dont elle était membre dans les années 90. Robertson insiste sur le fait que le plus important produit du collectif n'est pas seulement ses textes, mais une forme de vie collective, autonome, improvisée, une forme de résistance incarnée dans le quotidien. Le texte retrace la dissolution progressive du collectif due notamment à la montée de l'économie néolibérale, à la spéculation immobilière, à l'érosion des soutiens publics à la culture. Pourtant, cette fin n'est pas vue comme un échec. Le collectif persiste comme force latente, comme forme d'insurrection poétique qui pourrait ressurgir ailleurs, autrement, dans d'autres moments historiques. Le collectif The Cheapest University et la revue How to Become, basée à Paris, constituent une telle résurgence. Et quand Robertson évoque dans un entretien de 2020 ses jeunes amis qui l'interrogent sur sa propre trajectoire vers l'écriture, on peut penser que The Baudelaire Fractal a en partie été écrit pour elle. L'image de ma propre apparition à moi-même pouvait-elle ouvrir un monde possible, écrit-elle dans The Baudelaire Fractal? Le projet How to Become a Lesbian a débuté en 2016 sous la forme d'un atelier expérimental de traduction et d'écriture animé par Sabrina Soyer à The Cheapest University à Paris, une structure non institutionnelle permettant aux artistes de s'engager dans une recherche collective. Ce projet a donné naissance à une revue dont le nom change à chaque numéro et dans laquelle, entre autres choses, Sabrina Soyer, accompagnée d'une coalition informelle d'écrivaines, traductrices, journalistes critiques et activistes, documente leur rencontre avec la traduction et avec une poésie queer nord-américaine, Eileen Miles, Lisa Robertson, Gail Scott, Kathy Acker et Erin Murray. Parmi les questions pressantes qu'elle se pose, comment devenir artiste? Comment repenser la notion de carrière et résister à la rhétorique de la professionnalisation qui a infiltré les écoles d'art après la mise en place du processus de Bologne et de l'espace européen de l'enseignement supérieur? Autre question, comment devenir écrivain? Quand à l'école, on était vraiment nul en anglais et qu'on n'arrivait pas non plus à bien utiliser le français. Je cite. Écrire ses éditos dans un anglais délibérément ou volontairement non idiomatique a été une forme de libération. Et traduire lui donne accès à l'écriture en français. Traduire Diaby and Epic leur permet notamment de participer à la transmission entre différentes générations féministes et de découvrir les féministes de Montréal. D'inventer une nouvelle adresse, de nouveaux destinataires à Diaby en queerisant la traduction, en faisant ressortir les éléments de lesbianisme qu'elles y ont lus. Et enfin de créer, je cite la postface de Soyer, un son à la fois joyeux et offensif, à la fois punk, sensuel et intello qu'on n'avait jamais entendu en poésie française. Bref, un devenir transgénérationnel. Et je passe à mon dernier exemple. Comment refuser ce qui vous a été refusé pour recréer des communs? Ce qui vous a été refusé quand vous êtes afro-descendant, afro-américain comme Fred Moten, c'est le statut de sujet et la subjectivité. Fred Moten, né en 1962, est poète, théoricien et professeur de performance studies à NYU. Il est l'auteur d'une dizaine de livres de poésie, dont The Field Trio, finaliste du National Book Award en 2014. Il s'est fait connaître en 2000 avec la publication de In the Break, The Aesthetics of the Black Radical Tradition, et surtout par The Undercommons, Fugitive Planning and Black Study, paru en 2013, qu'il a coécrit avec son ami Stefano Hardy, chercheur nomade en sciences politiques. L'ouvrage a été traduit aux éditions Brook, sous le titre Les Sous-Communs. Après la discordance tonale de Bernstein et son retour au principe de l'esthétique et de la critique pré-professionnelle, après les phrases somptueuses et le style baroque volontairement improductif de Robertson, voici le style fugitif et opaque de Fred Moten. Pour le caractériser, je dirais que comme l'œuvre de Moten tout entière, il opère un métissage entre le style de la théorie, théorie critique, post-structuralisme français, opéraïsme italien, Black Radical Tradition, et avec le style de la tradition noire, tradition culturelle, musicale, intellectuelle et vernaculaire. Il ne s'agit pas uniquement de recourir à la théorie et à la tradition philosophique pour penser l'expérience noire, mais aussi d'exploiter la théorie pour son son, son groove et ses riffs. On reconnaît des samples de Derrida, toujours déjà, ou de Heidegger, Geworfenheit, et vice-versa, de tirer des concepts de la culture noire en faisant par exemple de l'improvisation collective du free jazz, un concept, le modèle de l'être ensemble, par le faire ensemble. Dans un entretien avec Jesse McCarthy, Moten revient sur cet impératif de trouver un son dans son écriture. Les critiques que j'aimais et qui m'ont influencé étaient tous bizarres. Empson, Burke, Benjamin, Adorno, ils avaient tous un son, ce n'était pas le son des revues universitaires comme le PMLA. Les autres critiques qui l'ont influencé, poursuit-il, étaient des poètes, Olson, Baraka, Nate Mackey et surtout Susan Howe, qui selon lui a une compréhension différente de la manière dont fonctionne la phrase. Miles Davis disait « Tu dois avoir un son, Moi, je savais que je voulais avoir un son. Il s'agit d'avoir un style, mais aussi de refuser la transparence, un certain héritage des Lumières, de déjouer la volonté de maîtrise de la raison instrumentale. Les deux auteurs utilisent des néologismes ou remotivent le sens de mots courants sans toujours les définir ou les identifier explicitement comme concepts. The Andrew Commons propose une critique radicale de l'université, du capitalisme, de l'État et des formes dominantes de savoir. Le mot Andrew Commons désigne ces espaces informels, fugitifs, collectifs où des formes de vie, de pensée et de lutte s'inventent à côté ou contre l'ordre dominant. Mouton et Harney récusent l'université, en tout cas états-unienne, comme machine de capture néolibérale qui absorbe, normalise et dépouille les formes de pensée radicales de leur potentiel subversif. Ils récusent la politique qui se réduit à des policies, des réglementations et à la gouvernance. Contre la gouvernance des souverainetés, Mouton et Harney préconisent le partage des incomplétudes. Les Andrew Commons, explique Yves Citon, regardent vers le bas, vers ce qui est déjà là, sous nos pieds et autour de nous, au lieu de revendiquer l'obtention de droits d'avenir, au lieu de dénoncer d'intolérables privations, Mouton et Harney trouvent leur principale ressource dans le partage de nos incomplétudes. Je vais vous donner un exemple de ce style théorique. C'est dans le chapitre 6 qui s'intitule « Variations sur la cale ». Et qui affirme que la logistique échoue toujours à contenir ce qu'elle a relégué à la cale. La logistique qui vise la gestion optimale des flux de biens, de services ou d'informations et cherche à se débarrasser du sujet, écrivent-ils, est née avec le commerce triangulaire et la modernité. La logistique moderne a été fondée avec le premier grand mouvement des marchandises, celle qui pouvait parler. Mais la logistique échoue à contenir ce qu'elle relègue à la cale. Fred Mouton et Harney utilise l'image de la cale du bateau négrier pour décrire un espace de création collective, de résistance et de savoir en dehors des institutions dominantes. La vie dans la cale défie l'imagination. Lorsqu'il s'en approche au milieu du chapitre, Mouton et Harney cherchent de toute évidence un moyen stylistique de dire cet indicible. Ils le font dans une écriture qui évoque le free jazz, éruptive, dissonante, d'une grande liberté rythmique et hyper allusive. Ils citent le poète et critique Nate Mackie, à qui Mouton doit le concept de fugitivité, le penseur de l'afro-pessimisme Frank Wilderson III, ils évoquent Frantz Fanon par la présence du terme « lise », dont le Y appelle à son tour l'adjectif « lyrique ». Mouton et Harney embrassent ici symboliquement toute la tradition radicale noire et rendent hommage à leurs prédécesseurs. Le philosophe franco-étasunien Norman Adjari rappelle que la « Black Radical Tradition », tradition radicale noire est une anamnèse, une remémoration active mais nécessairement partiale et morcelée de ce qui constitue la pensée, la politique et l'esthétique noire. Et il ajoute, la création noire est toujours en dette par rapport à ses prédécesseurs qui ont frayé un chemin et rendu possible une place pour la parole noire. Ce que Mouton et Harney trouvent au fond de la cale comme principe de cohésion et d'insurrection, c'est l'apticalité ou l'amour, c'est le titre de la dernière section. Une manière de sentir à travers d'autres, la disposition à toucher les autres qui te touchent, ou encore une intériorité sur la peau. Au détour du dernier paragraphe, on comprend que ceux à qui on a refusé le statut de sujet et la subjectivité y ont substitué, je cite, « une intériorité sur la peau et la soul ». Non plus l'âme dont ils ont été privés, mais la soul comme culture et façon d'être ensemble. The Andrew Commons est sous-titré « Planification fugitive et études noires ». L'étude est ce qu'on fait avec d'autres, c'est parler, se balader avec des gens, travailler, danser, souffrir, être dans un genre d'atelier, jouer dans un groupe en impro, des vieux assis devant chez eux ou des gens qui travaillent ensemble à l'usine. Pour reprendre un exemple frappant du livre, l'étude, ce sont les échanges informels qui ont lieu entre les étudiants avant que l'enseignant n'entre dans la salle, impose le silence et commence le cours. En tant qu'enseignante, cela m'interroge, à la fois sur nos pratiques pédagogiques, mais aussi sur ce que peut produire. On ne renonce pas aisément au productivisme et à l'efficacité. Donc ce que peut produire l'étude ainsi comprise, sinon ce que Mouton et Harney appellent l'antagonisme généralisé et le refus. Alors il se trouve que nous disposons d'un cas d'étude encourageant, la traduction en français des Andrew Commons, et je finirai sur ce point. Lorsque Fred Mouton suggère que The Andrew Commons soit traduit collectivement, Rosanna Puyol, qui vient de lancer les éditions Brooke, a l'idée d'organiser des ateliers de traduction ouverts. Le livre a été traduit au cours de 15 ateliers de traduction qui ont duré entre 2 jours et 2 semaines, se sont tenus dans 15 lieux à Paris, Montpellier, Bordeaux, Bruxelles et Genève et ont impliqué plus de 100 participants au total. Certains, comme Puyol, participant à presque tous les ateliers, d'autres ne se joignant à eux que pour une journée ou moins. Qui sont-ils ? Qui sont-elles ? Ce sont des amateurs, des amatrices, des amateuristes issus du monde de l'art, artistes, chercheurs, commissaires d'exposition, critiques, philosophes, lecteurs. La plupart sont jeunes et s'identifient comme féministes et queer. Rosanna Puhol s'efforce de décrire l'alchimie qui a lieu au cours de l'étude. Les moments de lecture, d'apprentissage, d'écoute, de rire, de repas, de café, de digression, de traîne, de joie, d'ennui, d'incompréhension et d'idées lumineuses se mêlent et se nouent dans quelque chose de très mystérieux. Si l'un dit ceci, est-ce que l'autre disait cela? Ou bien parce qu'en mangeant cela, je pensais ceci, parce qu'on, etc. L'enchevêtrement des pensées, paroles, ressentis, expressions dépasse le langage et s'inscrit dans la traduction. Toute une matière comme une vapeur se forme avec, dans et hors le texte. Les ateliers s'inscrivent dans la conception de l'étude en refusant d'isoler le travail de traduction de la texture de la vie quotidienne. Puhol rapporte comment ils bavardent avant de se mettre au travail, cuisinent et mangent ensemble, écoutent des morceaux de musique et lisent des livres mentionnés dans les undercommons. En refusant la professionnalisation, lorsque les ateliers ont lieu dans un cadre institutionnel, Puhol refuse de jouer le rôle de modératrice ou de présenter le livre. Elle insiste pour qu'il commence d'emblée à traduire en reprenant là où le groupe précédent s'est arrêté, avec la conviction que chaque phrase contient l'ensemble. Il commence par lire à haute voix un passage en anglais et un passage de la traduction française. La traduction est l'occasion d'une éducation mutuelle, fruit du partage des incomplétudes. Chaque participant apportant son expérience et ses connaissances dans les domaines linguistiques, poétiques, militants, théoriques, historiques, artistiques ou philosophiques. La méthodologie fait l'objet de nombreuses discussions et parfois de désaccords. Faut-il s'en tenir à une traduction unique pour les termes clés du livre ? Les notes des traducteurs permettent de proposer des variantes et de garder la trace des discussions qui ont précédé les choix. Ces notes manifestent aussi l'ambition pédagogique de la traduction, dans un effort évident d'inclure des lecteurs non formés à l'université. La première note apparaît dès la page de titre pour proposer une traduction alternative du titre. En utilisant l'imparfait, la note de bas de page 9 rend le processus de traduction palpable. Nous traduisions d'abord planning, etc. Pour Puhol, et on peut supposer que c'est le cas pour d'autres participants, le livre et l'expérience de la traduction ont été transformateurs, notamment dans la manière dont ils réarticulent amitié, travail et recherche. Alors, conclusion. J'ai cherché à comprendre pourquoi ces trois poètes critiques, poètes essayistes, poètes théoriciens, avaient recours à des styles ostensibles, voire ostentatoires, pour composer des textes de prose critique ou de pensée. Alors, il y a une raison esthétique. Robertson est en quête de beauté, Bernstein privilégie la sensation, Montaigne le toucher, la matérialité de la langue et le style en tant que tel. Robertson aussi, qui a récemment intitulé un bref essai sur Chateaubriand, « Only style survives ». Chez les trois poètes, le style ostensif manifeste aussi une résistance. Résistance chez Bernstein et Motten aux normes de l'écriture académique, à l'impératif de transparence et de paraphrasabilité. Revendication chez Robertson d'un excès improductif en pure perte. À ces deux raisons principales, esthétique et résistance, on peut ajouter des raisons rhétoriques et heuristiques. Intriguer, retenir l'attention, engager le lecteur, la lectrice à la recherche. Côté transmission maintenant. Tous les trois s'engagent à leur manière pour la préservation ou la recréation d'espaces communs non soumis au marché, soit en évoquant cette question dans leurs écrits, Moten et Robertson, soit en mettant librement à disposition un très grand nombre de ressources, Bernstein. Quant à ces nouvelles générations de jeunes artistes, auteuristes, théoriciennes qui créent des espaces queer, décoloniaux, anticapitalistes, en marge du milieu universitaire et du monde de la poésie, je ne sais pas encore quoi en penser, je ne sais pas... Voilà, si elles ont existé telles quelles, s'il s'agit d'un phénomène nouveau, d'une continuité, de résurgence, il n'est pas sûr que ce soit la bonne question à poser, mais Nicholas Dames, professeur à Columbia et spécialiste du roman, constate un phénomène similaire dans la recension du livre de John Guillory, dans laquelle il se demande, tirant les conséquences du constat sombre de Guillory, si les études littéraires resteront une activité professionnelle et si oui, sous quelle forme. Donc Dames identifie autour de lui un nouvel espace semi-professionnel à la marge de l'heureux sanctuaire qu'ont été les départements d'études littéraires au sein de l'université. Une sphère professionnelle semi-autonome, un espace culturel à moitié lié à l'université mais idéologiquement distinct d'elle. Cette sphère est celle des étudiants diplômés, des post-docs, des vacataires qui surpassent en nombre les titulaires et peuvent l'emporter intellectuellement sur eux. Il identifie de nouvelles formes d'associations qui sont latérales plutôt que hiérarchiques. Ateliers, groupes de lecture, conférences dirigées par des étudiants, blogs et critiques en ligne, organisations syndicales et même des conversations plus éphémères sur les réseaux sociaux qui adoptent et rejettent des approches théoriques, façonnent de nouveaux goûts et en général articulent une volonté critique qui n'est pas soudée à des normes professionnelles. Je le cite, « La nouvelle sphère semi-publique qui remplace silencieusement la profession est tournée vers l'extérieur, vers un lectorat en ligne qui connaît la théorie littéraire mais n'y investit pas professionnellement et latéralement vers la collectivité des mouvements syndicaux et des identifications de classe et non vers l'appartenance à une profession, le magazine, le blog, le syndicat. Nous verrons, c'est à suivre. » Merci.